Bonjour à tous. Ouais, ça fait un peu des émotions, hein, tout ça. Il faut dire que depuis, on a également ramené le fauteuil roulant à l'église, à Guebwiller, on avait un fauteuil roulant qu'on a emprunté, des béquilles, donc on les a ramenées, parce qu'on n'en a plus besoin. Merci Seigneur pour cette intervention. C'est vrai que, à travers ce témoignage, on voit aussi le cri du cœur de l'enfant, mais aussi le cri des cœurs du parent et le cri des prières aussi qui sont montées de frères et sœurs, de la famille. Dieu entend, Dieu choisit de répondre comme il le veut, quand il le veut. Et on va continuer ce matin justement sur ce sujet. On a déjà chanté un cantique qui nous parle du cri. Et je voudrais commencer ce message en évoquant une autre histoire qui nous parle d'un cri de cœur. Alors, notre sœur va afficher le PowerPoint. Georges, chrétien plein d'amour, témoignait partout de sa foi. Son collègue de travail, un pharmacien du nom d'Henri, lui tenait particulièrement à cœur. Mais chaque fois que Georges lui parlait du Seigneur, Henri tournait ses propos en dérision. Un jour, une petite fille présenta à Henri une ordonnance pour sa mère alitée. Il mélangea quelques drogues, versa le contenu dans un flacon qu'il remit à la petite fille. Celle-ci franchit prestement la porte et s'en alla en courant. Lorsque le pharmacien remit les bouteilles en place, il constata avec horreur et stupéfaction qu'il avait pris par mégarde une bouteille contenant un poison mortel. Il ne connaissait pas la fillette, ni son adresse. Henri fut terriblement tourmenté. Dans quelques instants, la mère allait avaler le breuvage mortel. Cette pensée lui donnait des sueurs froides. Quelles conséquences dramatiques allait avoir cette affaire, non seulement pour cette famille, mais aussi pour sa carrière. Soudainement, il se souvint de son collègue Georges et du Dieu dont il lui avait parlé. Immédiatement, il se mit à genoux et implora le secours de ce Dieu qu'il ne connaissait pas, mais qui, selon Georges, est vivant et sait faire des miracles. Il pria intensément, demandant à Dieu d'intervenir dans cette situation désespérée. Soudain, la porte s'ouvrit et la petite fille éplorée dit au pharmacien : « Je suis désolé, monsieur, mais j'ai trébuché sur la route. Pouvez-vous me donner une autre potion ?» C'est avec joie et grand soulagement que le pharmacien s'exécuta. Cet incident bouleversa la vie d'Henri et il ne fut plus jamais le même, car il savait maintenant par expérience que Dieu exauce les prières. Il se convertit à Jésus-Christ. D'abord, une bouteille mortelle a été brisée, puis le cœur d'Henri a été brisé, Jésus l'a rencontré. Le pharmacien a fait l'expérience de ce cri du cœur qui touche le cœur de Dieu. Un cri qui dit « Dieu, tu es mon seul espoir dans cette situation ». Et en entendant ce cri-là, le ciel est passé à l'action. Comme par hasard, la petite fille a trébuché sur la route et a perdu le flacon mortel. J'ai envie de dire qu'un ange lui a fait un croche-patte invisible. Henri, le pharmacien, a crié un cri qui a touché le cœur de Dieu. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur un autre homme qui a lui aussi crié à Dieu, il y a environ 2000 ans. Un cri qui a stoppé net Jésus pendant qu'il était en route vers Jérusalem, une semaine avant sa mort. Vous le connaissez certainement, c'est Bartimée. Et le titre de mon message ce matin, « Quel est le cri de ton cœur ?» Alors on va lire ce texte dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, versets 46 à 53. Donc vous pouvez le suivre sur l'écran, dans la version semeur. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David !» « Aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Le cortège de Jésus est de passage à Jéricho, ville célèbre jadis pour ses hautes murailles qui se sont écroulées comme un château de cartes au début de la conquête de la terre promise par le peuple d'Israël. Maintenant, Jésus, suivi d'une grande foule, fait route vers Jérusalem, là où il va être acclamé comme roi en montant sur un ânon, là aussi où une semaine plus tard il va mourir sur une croix et accomplir ainsi la mission pour laquelle il est venu. L'homme le plus célèbre du moment en Israël est accompagné de ses disciples et d'une grande foule acquise à sa cause. Ce sont des gens qui ont été interpellés par ce prédicateur hors pair, qui ont vu ou bénéficié de l'action surnaturelle de ce guérisseur de maladies en tout genre. La vie de nombre de personnes a été bouleversée, transformée. Mais pas seulement. Dans cette masse, il y avait aussi des simples curieux, des sympathisants, des personnes tout simplement attirées par le personnage Jésus, des gens aussi intéressés par le bénéfice qu'ils pouvaient retirer de ces miracles, comme bénéficier d'un repas gratuit suite à la multiplication de pain. Lors du passage de Jésus à Jéricho, un homme va vivre une secousse dans son train-train quotidien de mendiant. Le verset 46 dans la transcription Parole vivante se lit ainsi « Bartimée, un mendiant aveugle, était assis à sa place habituelle près de la route. » Telle était sa routine. Mais ce sera le dernier jour où cette place sera en quelque sorte sa propriété. Dans quelques instants, plus rien ne sera comme avant. Le bruit du cortège de Jésus commence à parvenir à ses oreilles. L'aveugle s'informe de ce qui se passe. Oui, c'est bien Jésus de Nazareth qui va passer tout près de lui. Alors c'est vraiment une occasion unique à ne pas rater. Et Bartimée se lance sans hésiter. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Il reçoit une réponse, mais pas celle qu'il attendait. Des râleurs veulent le faire taire. Ils lui ont peut-être dit quelque chose du style « Eh oh !» On ne crie pas comme ça. Tu te prends pour qui pour te permettre de déranger le défilé du Messie ? Pour ces gens, Bartimée n'est rien de plus qu'un élément perturbateur. Mais ces personnes, soi-disant en bonne manière, est-ce qu'elles vont réussir à raisonner l'aveugle mendiant avec succès ? Est-ce qu'il va redevenir muet, inexistant en quelque sorte ? Alors je me mets à la place de Bartimée en cet instant. Je m'imagine ce qu'il a pu penser en une fraction de seconde. Ce Jésus, il avait dit qu'il était venu pour les malades et non pour les bien portants. Il est venu pour les pécheurs et non pour les propres justes. Je me sens donc concerné, moi. Ce sont des cas comme moi qui l'intéressent, et non pas ces rabroueurs qui le suivent comme des moutons sans rien y comprendre. Ah non, ça ne se passera pas comme ça. Et voilà que Bartimée, au lieu de se muer dans le silence, en remet une deuxième couche en dépassant les 90 décibels. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Dans la vie, on peut exprimer différents cris qui manifestent différentes émotions. Je vous en donne quelques exemples. Comme cet homme, un jour j'ai appelé à l'aide. Lors de ma première expérience professionnelle, j'ai participé à l'installation électrique d'un hôtel en Allemagne pendant quelques semaines. Et lorsque je suis rentré chez moi, j'ai fait un gros cauchemar. Mes collègues ont éteint la lumière et fermé la porte de la clé de la cave. Et je me suis retrouvé emprisonné dans le noir. Et dans mon rêve, j'ai crié tellement fort que la voisine de la maison individuelle à côté m'a entendu. Mes parents, évidemment. C'était un cri de détresse. Un cri de détresse. Un autre genre de cri, comme ce petit garçon, on pouvait crier un cri de colère. Je ne sais pas pourquoi il crie. Peut-être que son frère lui a piqué son camion Playmobil ou sa voiture radiocommandée. Un cri de colère. Un cri beaucoup plus agréable. Les Bleus ont gagné. C'est l'euphorie chez les supporters français. Il y a des cris de joie. Ils sont fiers et leur plaisir est intense. Peut-être ce soir, avec la finale du championnat du monde d'Europe de handball, il y a des Français qui sont contents. On verra ça tout à l'heure. Les différents cris, il y en a, des cris de détresse, des cris de colère, des cris de joie, qui expriment toute une gamme d'émotions qui reflètent notre état intérieur. Alors ma question ce matin, c'est quel est le cri de Bartimée ? Quel était le genre de cri de Bartimée ? Alors, j'y vois un cri de détresse. De la bouche de Bartimée sort ce cri « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» En prononçant sa requête, il est limite en train de pleurer. De sa voix tremblante, il supplie Jésus de prendre à cœur sa situation misérable. J'y vois aussi un cri de désir, un désir intense. « J'ai assez vécu d'années dans le noir. Maintenant, c'est le moment. » C'est le moment pour moi de pouvoir vivre une vie colorée, d'apprécier les merveilles de la nature. Et c'est Jésus qui peut m'en donner l'opportunité. Quel désir intense, au point qu'il a crié encore plus fort. Et puis, j'y vois aussi un cri de foi. Si quelqu'un peut me redonner la vue, c'est bien Jésus. Il a accompli toutes sortes de miracles. Et il a déjà délivré des aveugles de leur cécité. Pourquoi pas moi ? Un cri de détresse, un cri de désir, un cri de foi qu'il adresse à Jésus. Mais il y a aussi un cri de colère, c'est son deuxième cri contre ces personnes, de cette foule qui veut le faire taire et qui lui exprime un reproche. C'est un cri de colère. J'ai le droit d'avoir un rendez-vous avec Jésus autant que vous. Vous n'êtes pas d'accord ? Eh bien, je vais crier encore plus fort, que ça vous plaise ou non. Alors, Bartimée a crié, mais quelle est la réponse de Jésus ? La première chose que nous voyons, ce sont deux mots, Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. L'effet instantané s'est traduit par cette action de Jésus. Le cri de Bartimée a suscité l'intérêt du Messie qui a arrêté net sa marche vers Jérusalem. Le cortège de Jésus, lui aussi, s'est mis en mode pause. Il y a des cris qui arrêtent Jésus, des cris dont il n'est pas indifférent, bien au contraire, des cris dont il est très sensible. Ce sont des cris du cœur qui touchent le cœur de Dieu. Psaume 34, verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Quelqu'un a dit, de la même manière qu'une mère s'occupe de son bébé quand il crie, Dieu sort de sa cachette pour rencontrer celui qui crie à lui. Alors Jésus s'est arrêté, mais ensuite il lui a posé une question. Que veux-tu que je te fasse ? La réponse semble tellement évidente, n'est-ce pas, qu'on peut se demander si ça vaut la peine de la poser. Qu'est-ce qu'un aveugle peut recevoir de mieux que de voir ? Mais Jésus procède souvent ainsi. Il sollicite la foi de la personne en la questionnant sur son désir profond. Et la réponse de Bartimée ne se fait pas attendre. « Rabouni, que je recouvre la vue !» Et Jésus lui ouvre les yeux. Mais juste avant, il lui dit quelque chose. C'est sa troisième intervention. Il affirme quelque chose. « Va, ta foi t'a sauvé. » En fait, Jésus lui offre un double cadeau. Le salut et le recouvrement de la vue. Bartimée reçoit d'abord cette vue spirituelle et ensuite la vue physique. C'est d'ailleurs ce premier cadeau dont il ne s'attendait pas qui est le plus précieux, le plus important. Il a une dimension éternelle. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 5, verset 8, « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Et Bartimée est devenu un enfant de lumière. Et ses yeux se sont ouverts ensuite et il a pu voir la lumière. Quel miracle formidable, quel cadeau formidable que Jésus a fait pour Bartimée. Il lui a donné plus qu'il ne s'attendait. Alors, l'histoire se termine bien sûr par cette reconnaissance de Bartimée. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Le miracle s'est produit. Impossible n'est pas Jésus. Il a donné ou rendu la vue à Bartimée. À partir de maintenant, Bartimée va pouvoir s'émerveiller devant la beauté d'un arc-en-ciel ou d'un coucher du soleil. Alors je soupçonne, même si le texte ne le dit pas explicitement, qu'en suivant Jésus, notre cher Bartimée a aussi poussé un cri de joie. Un cri de joie. Alléluia. Alléluia. Psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Bartimée a été entendu, il a été exaucé. Alors je me suis posé la question, pour aller un petit peu plus loin dans cette réflexion sur le cri du cœur, je me suis posé cette double question. Quel cri Dieu écoute-t-il? Et quel cri Dieu n'écoute-t-il pas? Quel cri Dieu écoute-t-il? En d'autres mots, est-ce que nous voyons dans la Bible des raisons pour lesquelles Dieu serait réceptif à notre cri? Et peut-être aussi, est-ce qu'il y a des raisons ou des exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent que Dieu se boucherait les oreilles pour ne pas entendre ou il refuse d'écouter nos prières? Le sujet est assez vaste. On trouve environ 350 références au mot « crier » dans la Bible. C'est pas mal. Alors, on ne va pas les parcourir tous ce matin. J'en sélectionne pour vous trois qui nous montrent trois réponses différentes de Dieu. Il me semble que ce sont les trois réponses différentes que nous trouvons dans l'Écriture. Le premier exemple, nous allons lire dans Jonas 2, verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, prie à l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Une réponse positive du cri de Jonas. L'expérience de Jonas est un encouragement pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont dans la détresse. Dieu voit, Dieu entend, et il agit en ta faveur. Pourtant, le prophète est en fuite. Dieu permet d'ailleurs même une dégringolade pour que son cri devienne quelque part même un cri de désespoir ou de seul espoir. « Seigneur, tu es mon unique chance. » C'est ce qu'a vécu Jonas. Il est descendu à Jaffa, nous dit le texte. Une fois embarqué, il est descendu au fond du bateau pour dormir. Puis il a été jeté dans la mer, il est descendu dans la mer et il a fini par descendre tout au fond de la mer lorsqu'il a été avalé par le gros poisson. Je ne sais pas à quelle profondeur il était, peut-être moins 5000 mètres. En vrai, en gros, on peut dire qu'on ne peut pas tomber plus bas que lui. Et c'est là, au fond de la mer, que son cri a touché le cœur de Dieu. Alors c'est un encouragement pour nous, parce que parfois nous pensons être déjà tout en bas, mais Dieu permet parfois que nous descendions encore plus bas, et lorsque notre cri va toucher le cœur de Dieu et qu'il va nous délivrer, nous pourrons vraiment le célébrer, le louer et lui dire « Seigneur, tu es là dans les pires situations, tu ne m'as pas abandonné, tu as entendu ma voix et tu es venu me secourir ». Si tu es dans la détresse, crie à Dieu. Il te comprend dans ce que tu vis, que tu sois à côté de la plaque. Dieu d'amour sera ton parfait éducateur. Un deuxième exemple. Alors ici, c'est un cri auquel Dieu n'a pas répondu. Il a dit non. Jérémie 14. Et le Seigneur me dit, ne prie pas pour le bien de ce peuple s'ils jeûnent. Je n'entendrai pas leurs cris de détresse. S'ils offraient des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Je veux les exterminer par l'épée, par la famine et par la peste. Dieu dit ici au prophète Jérémie, ce n'est pas la peine de prier pour le bien de ton peuple. Le peuple d'Israël est rebelle, il se prostitue à d'autres dieux. Il n'observe pas la justice. Tous leurs actes, même soi-disant spirituels, sont souillés. Que ce soit les jeûnes, les holocaustes, les offrandes, elles ne valent rien. Dieu se bouche les oreilles. Il refuse d'écouter le cri des enfants d'Israël. Il va sévir contre son peuple en lui envoyant des calamités et en le déportant à Babylone. Oui, Dieu ne répond pas aux cris et aux prières, aussi désespérées soient-elles, quand certaines conditions ne sont pas remplies. Il y a des attitudes et des actes qui sont répréhensibles aux yeux de Dieu. Par exemple, Proverbe 21, verset 13, « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. » Ici, l'indifférence envers le prochain qui exprime un besoin entraîne un refus de Dieu de répondre à ton propre cri quand tu seras dans une situation semblable. En gros, Dieu dit « J'agirai avec toi comme tu as agi avec autrui. » Jacques 4, verset 3, un autre exemple d'un cri où Dieu n'entend pas. « Vous demandez, mais vous ne recevrez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Lorsque les motivations réelles sont égoïstes, Dieu ne répond pas favorablement à notre prière. Dieu n'est pas une machine à sous qui, une fois actionnée, réalise tous nos souhaits. Un peu plus loin dans ce chapitre, l'apôtre Jacques dira « Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Jacques donne le remède à celui qui est centré sur lui-même. Je veux accepter tout de sa main. Je n'exige rien. Je ne suis pas dans la revendication, mais dans l'acceptation. Je lui dis, Seigneur, que ta volonté soit faite et qu'elle soit faite, une fête, dans ton cœur. Voilà la bonne disposition de celui qui crie à Dieu. Donc Dieu dit parfois oui, Dieu dit parfois non. Et la troisième réponse, c'est pas encore, pas encore. Exode chapitre 2. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient et criaient encore dans leur esclavage. Les appels au secours qu'ils lançaient dans leur esclavage montèrent vers Dieu. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et sut. Du temps de Joseph, qui était premier ministre en Égypte, tout était formidable. Mais quand un nouveau pharaon est monté sur le trône, les ennuis pour les enfants d'Israël ont commencé. Ils furent astreints à un pénible travail. Avec l'argile, ils fabriquaient des briques pour construire de belles cités, faisant la fierté des Égyptiens. Dans leur dur esclavage, les Israélites gémissaient et criaient. Criaient-ils de rage et de colère contre Dieu ? Probablement. Criaient-ils pour qu'ils viennent les secourir ? Certainement. Les années passent, des années qui semblent sans fin. C'est quand le bout du tunnel ? 400 ans que ça dure. Et si longtemps, pourquoi il ne fait rien ? Quand viendra l'heure de la délivrance ? Et va-t-elle vraiment arriver ? Alors soyons d'abord assurés que Dieu entend le cri de son peuple. Dieu entendit leurs soupirs, dit le texte. Et il entend nos soupirs. Soupirer, c'est inspirer ou respirer de manière plus ou moins bruyante. Alors je peux comprendre qu'il peut être déroutant de voir Dieu rester si longtemps passif, 400 ans. Mais il a ses raisons. Il a son timing, il a son plan. Et il n'oublie pas son alliance établie avec les ancêtres du peuple choisi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et viendra l'heure de la délivrance. Elle sonnera. Après les corvées qui auront durement éprouvé les enfants d'Israël, une série de plaies va faire plier Pharaon et son peuple. Autant l'esclavage a été long et pénible, autant l'heure de la délivrance est grandiose. Rappelons-nous que Dieu a un horizon qui dépasse le cadre de notre petite vie, qui n'est qu'une vapeur qui passe pour un peu de temps. Lui, il est le Dieu de toute l'histoire et de ton histoire. Alors si ton cri monte à Dieu, combien de temps encore ? Si tu es tenté de murmurer ou de céder à l'amertume, rappelle-toi ceci, Dieu n'est pas indifférent. Mais il agit en son temps et selon son plan. Il a ses raisons. En attendant, sois patient, supporte avec persévérance l'épreuve que tu traverses, comme le dit Jacques. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Un cri, le cri du cœur. Alors ce matin, quel est ton cri ? Je ne sais pas si tu es en train de crier en ce moment. Peut-être que tu ne cries pas, c'est le calme plat. Il n'y a rien à signaler. Peut-être que tu cries d'un cri silencieux. Personne ne le sait. Mais au fond de toi, il y a des choses qui bouillonnent. Peut-être c'est senti, tu verses des larmes chaque soir parce que ton cœur crie de douleur. Peut-être tu cries de joie. Tu es réjoui de cette communion avec Dieu. Ta musique et tes chants remplissent ta maison et magnifient le Seigneur. Peut-être aussi ton âme est desséchée et tu cries à Dieu, « Je t'en prie, visite-moi. » Alors Dieu te voit, Dieu te connaît. Il sait aussi la saison dans laquelle tu vis. Et c'est pour ça que nous sommes invités à nous approcher du Très-Haut. Et nous sommes là à la bonne adresse. Dieu écoute et répond au bon cri de ses enfants qui s'approchent avec lui par la foi d'un cœur vrai et sincère. On termine par la prière. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es celui qui entend le cri d'un enfant, comme tu as entendu le cri de ma fille. Tu entends le cri d'un pharmacien qui est tourmenté parce que c'est une catastrophe qui va arriver. Seigneur, tu connais nos cris, le cri du cœur qui peut monter vers toi à un moment ou à un autre dans notre vie. Et nous voulons t'assurer que tu nous entends, tu nous comprends et tu sais. Béni sois-tu, Seigneur. Nous avons confiance en toi parce que tout est possible pour toi. Merci de pouvoir nous être assurés de ta fidélité, de ton amour pour nous, qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Seigneur, pour ton intervention. Merci parce que si tu nous apprends à patienter, eh bien, nous voulons être confiants en toi, dans l'épreuve, dans la difficulté dans laquelle nous pouvons être aujourd'hui. Tu entends le cri de notre cœur, quelle que soit notre situation. Louange à toi, Seigneur. Amen.